on en parle.
Tension,
incompréhension,
addiction,
évolution,
explication.
On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45
sur LFM. Sur LFM.
11h12 sur LFM Radio 95.5. Vous êtes avec Jésus Zoumara pour On en parle, votre émission hebdomadaire de décryptage des sujets de société. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'inclusion sociale par le sport des personnes en situation de handicap. Peu de gens le savent, mais un Français sur cinq est en situation de handicap. En effet, selon l'INSEE, la France compte en 2020 presque 9,7 millions de personnes en situation de handicap. Afin de faciliter leur inclusion dans la société, différentes politiques en faveur d'intégration des personnes handicapées ont vu le jour, dans la loi handicap en 2005. Dans les faits, ces nombreuses mesures sont encore loin d'être atteintes, car si le concept d'intégration est aujourd'hui à la mode, les personnes handicapées restent encore trop souvent exclues de la société, ou tout simplement ignorées du plus grand nombre. Un handicap d'autant plus lourd à porter dans une société moderne qui voue un culte à la performance physique, à l'agilité du corps et du mouvement. Face à cette situation, le sport apparaît comme un moyen accessible à tous de s'insérer socialement. En effet, de tout temps, le sport a été reconnu comme un support essentiel de la vie sociale par ses facultés à favoriser l'insertion et l'intégration des gens. Mais est-ce vraiment suffisant? Le sport favorise-t-il vraiment l'inclusion des personnes en situation de handicap? C'est pour répondre à ces questions que nous recevons aujourd'hui Marlène Kilissi, fondatrice de l'association sportive Hope Swimming. Comment allez-vous Marlène? Vous allez bien?
Ça va bien, merci, et vous?
Très bien, très bien. Contente d'être sur LFM Radio?
Comme toujours, avec plaisir.
C'est un plaisir pour nous aussi. Donc j'ai envie de commencer l'émission en vous posant une première question. On parle souvent d'insertion, d'inclusion. C'est quoi le bon terme à utiliser?
Moi, j'ai envie d'utiliser inclusion.
Inclusion, donc?
Oui. Le club que j'ai monté, je souhaite qu'il soit en inclusion. Et quand je démarche certaines villes, même par rapport aux subventions, j'écris vraiment inclusion.
C'est quoi la différence justement de ce terme par rapport à l'insertion? Si vous avez une rapide définition à nous donner.
Pour moi, je veux inclure ces personnes en situation de handicap mental ou physique avec des personnes non porteurs de handicap. En fait, c'est les inclure avec les autres tout simplement.
D'accord, donc c'est vraiment insister sur la notion d'inclure ces personnes-là,
oui,
tout simplement dans le groupe.
Oui.
Très bien, très bien. Et justement, on parle de sport pour les handicapés, on doit parler, oui, d'handisport ou tout simplement de sport pour personnes handicapées?
Alors non, il y a plusieurs différences. Le handisport, c'est le sport pour les personnes en situation de handicap physique, que ce soit avec un bras, une jambe en moins. Et il y a le sport adapté. Le sport adapté, c'est pour les maladies psychiques, donc tout ce qui est autisme, trisomie 21 et déficience intellectuelle.
D'accord, donc c'est bien deux choses différentes.
Totalement.
D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez, ça va être le cœur de notre débat aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vraiment le sport peut aider à inclure ces personnes qui sont exclues de la société malheureusement?
Alors là, je dirais oui, 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 oui.
Très bien, mais juste avant de prendre votre réponse en entier, on va écouter différents témoignages d'éducateurs et de parents des Yvelines qui ont répondu à la même question qu'on vous a posée. Je prends votre ressenti juste après.
Merci beaucoup.
LFM Radio, 95.5.
L'inclusion au sein d'un club peut vraiment leur apporter des bénéfices, que ce soit au niveau de la communication, de la concentration, des habiletés motrices, de la socialisation. Ça leur apporte vraiment beaucoup.
Le handicap reste encore un peu tabou en France et il y a beaucoup de clubs qui ne rentrent pas dans le handicap par peur. Et il y a des clubs qui n'ont pas les moyens aussi financiers de pouvoir former des entraîneurs ou des éducateurs. Aujourd'hui, toutes les associations sportives, elles sont liées aux subventions et les subventions, il y en a de moins en moins.
Je pense que c'est important pour nos enfants handicapés, mais c'est très important pour les enfants invalides. Pour plus tard, pour leur éducation, pour leur acceptation de l'autre, leur compréhension. Et je trouve que c'est... Enfin, aujourd'hui, en France, on est dans un pays où le handicap n'est pas forcément très bien accepté. Et je trouve que ces projets, pour les petits, valides, leur permettront plus tard de mieux accepter la différence.
Le sport pour tous, c'est possible. Que ça soit des enfants, des adultes, toute forme de handicap, ça peut être de l'handicap visuel, mental, moteur, des accidentés de la vie qui veulent reprendre du sport, de l'autisme, et que n'importe quelle forme de handicap peut très bien faire du sport.
LFM Radio, 95.5.
De retour sur LFM Radio, avec Marlène Kilissi, qu'avez-vous pensé donc de ces témoignages qu'on a pu écouter?
J'ai beaucoup apprécié. Il y a de belles paroles et je pense que ça va nous permettre d'avancer sur le projet donc Upswimming, de voir un peu comment intégrer ces jeunes en situation de handicap. Et c'est surtout, moi, ce qui me touche, c'est les parents. C'est de voir les parents qui sont un peu démunis. C'est pas un peu, même,
c'est ce
je dirais
ressent,
beaucoup,
les sont
en
peu,
fait.
Un peu perdus, voilà, face à la situation, c'est
tout
ça?
Tout à fait, oui.
Mais justement, bah, c'est ma prochaine question. Avant de parler d'intégration, d'inclusion de ces enfants en situation de handicap, quels sont les effets bénéfiques qu'ils peuvent en tirer, justement, de faire du sport?
Bah, le fait de faire du sport, c'est avoir une activité physique, c'est de rencontrer d'autres personnes. Comme par exemple chez moi à Upswimming, on est en inclusion, ça veut dire que ce sont des enfants qui... on est tous pareils en fait, malgré qu'on ait une différence, légère différence pour certains. Il n'y a pas de... voilà, ok, t'es trisomique, mais t'es là pour apprendre à nager, t'es là pour apprendre quelque chose. Et les valeurs que je leur apprends, que ce soit aux grands ou aux petits, c'est d'être unis. D'être avant tout, pour moi, le plus grand mot, et ils vous le diront, ils vous le crieront même, c'est « on est une famille ».
Vous êtes une famille, exactement. Et justement, bah, en tant qu'actrice sur le terrain, quels sont les retours que vous avez justement des enfants, qu'ils soient handicapés ou non ?
Mais que ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, c'est une ouverture aussi sur la vie, sur d'autres activités, des choses qu'on ne connaissait pas. Je prends l'exemple, quand je suis en équipe de France au sport adapté, qu'on m'a dit, tu verras, ce jeune, lui, ne fait que de la natation, ta natation artistique, jamais de la vie, il la fera. Et on est à 3 ans après, des fois, il m'appelle, il me dit, regarde, je me rappelle du ballet, c'est comme ça, et les comptes, et il était mais hyper, hyper motivé. Alors que pour lui, c'est nager en équipe. Ils sont très, très équipes, ils sont très solidaires. Ce sont des enfants, très solidaires.
Des jeunes très solidaires. Et justement, bah, j'ai envie de vous demander comment ça se passe quand on a un jeune qui est en situation de handicap, qu'on doit intégrer à un projet avec d'autres jeunes qui ne souffrent pas de handicap.
Tout simplement, voilà, je vous présente un tel. Et alors moi, je fais pas de différence, voilà. Voilà, ils sont tous là, on se présente un à un. Et puis, pour la trisomie, oui, bien sûr, ça se voit physiquement. Sur l'autisme, non. Sur la déficience intellectuelle aussi, non. Mais on est pareil, voilà. Donc on va voir qu'il y a une légère... Donc on va leur expliquer, peut-être que des fois, il faut expliquer plusieurs fois pour la personne qui a pas forcément compris. Mais je ne dis pas, moi je... voilà.
D'accord, donc vous faites comme si de rien n'était, c'est
comme
ça?
Comme si de rien n'était, c'est à moi de m'adapter à l'entraînement en fait.
D'accord, donc c'est vous qui vous adaptez à l'entraînement. Est-ce que cette adaptation entraîne des coûts supplémentaires?
Oui, puisqu'il nous faut des éducateurs spécialisés, il faut des éducateurs à part en fait. Il faut... voilà, c'est tout un processus. Donc nous, entraîneurs, on ne peut pas dire lambda, mais entraîneurs pour personnes non porteurs de handicap, on n'est pas forcément formés à tout ce qui est sport adapté. On n'a pas forcément les bonnes méthodes, les modes. Mais après, ça apprend sur le tas. Et je pense que le lien le plus important, c'est le lien qu'on crée avec la personne. Et c'est avec ça qu'on arrive à... même si on n'est pas formé à tout ça, qu'on arrive à avoir le lien. Et le lien, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait.
C'est ça, tout à fait. Donc, c'est le lien qui est au centre. Mais justement, vous parliez tout à l'heure des besoins en tant que personne spécialisée et formée pour encadrer ces jeunes. Quels sont les autres besoins que vous avez pu noter, vous, sur le terrain?
De l'argent.
Ouais, le nerf de la guerre.
Le nerf de la guerre. C'est des subventions. Donc, moi, c'est des subventions publiques que je demande, des subventions privées, des donations. Après, c'est des créneaux. Moi, je suis dans le... Donc, Upswimming, c'est un club de natation. Donc, c'est des créneaux de piscine. C'est vraiment ça, l'essentiel.
C'est ça. Mais est-ce que, justement, il y a des choses qui sont mises en place au niveau du gouvernement, de l'État, pour faciliter votre situation?
Non. Alors, moi, je sais que mon club, c'est le premier club de France en natation artistique. Ça n'existait pas. J'ai eu la chance de pouvoir voyager à l'étranger et de le voir notamment au Brésil et de discuter avec, récemment avec des nageurs italiens. Et en fait, j'ai écrit à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui m'a reçue et qui m'a dit maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ? Et donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai lancé Hoop Swimming, et, qui se développe pas mal, j'ai envie de dire. J'ai la chance d'être suivie par Monsieur Estrosi, le maire de Nice, récemment par l'ancien Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Donc j'espère que, qu'on va nous écouter, parce qu'il y a... le sport, il est pour les jeunes, mais c'est aussi c'est un bien-être pour les parents de voir leurs enfants épanouis.
C'est ça, donc un bienfait aussi bien à la place des parents que pour les enfants.
Tout à fait.
Et pour les autres enfants, qu'est-ce que ça représente pour eux d'échanger, d'interagir justement avec ces enfants en situation de handicap ?
Ben moi, je vois qu'il y a beaucoup de... On apprend sur nous-mêmes, que ce soit les élèves ou même nous en tant qu'entraîneurs. On apprend beaucoup, on a beaucoup de cohésion, on a... Ben, y a beaucoup de partage maintenant. Il y a des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Je vois qu'ils s'invitent, je les vois sur les réseaux sociaux. Je dis, et moi alors ? Et je trouve ça mignon parce qu'en général, ce sont des enfants qui sont mis à l'écart, qui n'ont pas de... Excusez-moi le terme, qui n'ont pas d'amis. Quand ils sont dans leur centre, ils sont dans leur centre et point barre. Et là, avec ça, ils s'invitent à faire des petits goûters, des petits jeux, des... Il y a une interaction entre eux et c'est ça qui est le plus beau en fait.
C'est ça, l'interaction justement qui lutte contre l'isolement de ces jeunes.
Tout à fait, oui.
C'est ça, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de l'étranger, de vos voyages que vous avez faits, et j'ai eu envie de vous poser une question suite à une affirmation que j'ai trouvée dans les journaux. Catalina de Vandas Aguilar, la rapporteure spéciale des droits de l'homme aux Nations Unies, a constaté un retard de notre pays en termes de lutte contre le handicap. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ?
Je suis tout à fait d'accord.
C'est-à-dire ? On aime bien les questions un peu poussées chez LFM.
Ah bon ? alors, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de portes fermées quand je suis arrivée avec mon projet Hoop Swimming, qui m'a dit « Mais la différence fait peur, qu'est-ce que tu vas faire dans le handicap ? Toi, t'as la joie de vivre, etc. etc. » j'ai commencé en mars 2019. Mmh. On est en janvier 2021. J'ai pas baissé les bras. Il y a des villes qui m'ouvrent leurs portes, il y a des gens qui m'ouvrent leurs portes, il y a des parents qui croient en moi, il y a des enfants surtout qui croient en moi, qui sont porteurs ou non porteurs de handicap, et on ira jusqu'au bout en fait. J'irai jusqu'au bout, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mon projet.
C'est ça, donc vous êtes dans un combat, vous irez jusqu'au bout, mais oui. Est-ce que ça sous-entend quelque part, je prends des pincettes, qu'il y a ce qu'on pourrait qualifier de problème avec le handicap en France ?
Bien sûr, le handicap fait peur. Quand je vois ces jeunes trisomiques dans l'eau, il y a des gens qui les regardent. C'est dur, le regard de l'autre, on en reviendra toujours à la même chose, le regard de l'autre, il fait mal. C'est un enfant, il est innocent, il n'a rien demandé, il a demandé à venir au monde comme les autres. Ben non, il est différent et il faut l'accepter tel qu'il est. Donc maintenant, à nous de le faire progresser. Il a un rêve, je prends l'exemple de Noam. Noam, qui a intégré, c'est le premier jeune trisomique à avoir intégré Hoop Swimming. Son rêve, c'est de passer son permis et d'avoir une voiture de luxe.
Une voiture de luxe.
Alors pourquoi de luxe ? On ne sait pas. Mais il fait tout. Il fait tout. Maintenant, il commence à apprendre à lire et à écrire. Et il a 11 ans. Donc... c'est peut-être tard pour certains, mais chez moi, j'ai une devise, on y arrivera quoi.
C'est ça.
Quoi qu'il arrive, sa voiture de luxe, il l'aura.
C'est ça, mais justement, moi c'est une question que je me pose aussi, donc je vous la pose à vous. On a l'impression qu'on est un peu les derniers en termes européens de travail sur le handicap. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons à ça ?
Alors oui, on a beaucoup, beaucoup de retard. Parce que je vois récemment l'Italie, même par exemple, comme je vous disais, mes voyages, c'était le Mexique, le Brésil. Ils ont des clubs, ils ont des compétitions internationales. Et nous, on n'a rien. Et quand, par exemple, vous voyez une personne avec un fauteuil roulant dans les transports en commun, pour eux, c'est hyper difficile. On est, euh, on on est très 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 en retard. Donc là, c'est le gouvernement là qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose.
Et je vous ai posé la question tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas forcément un problème de médiatisation de l'handicap et du handisport ?
Bah bien sûr que si, parce que si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, on va suivre la première quinzaine des Jeux Olympiques parce qu'il y a un engouement, c'est les Jeux, c'est... Et voilà. Et puis après, il y a les Jeux Paralympiques qu'on met juste derrière, donc les 15 jours suivants, mais qu'on met pas en valeur. Et il y a tout autant d'athlètes qui méritent, je peux vous en citer, et qui méritent vraiment d'être mis en avant parce qu'ils travaillent autant que les valides, en fait.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est un problème de médiatisation, tout simplement.
Tout à fait. Moi, j'ai un parrain qui s'appelle Trésor Makunda, qui est malvoyant, et qui travaille tout autant que les autres. Et c'est un problème de médiatisation. Et encore, vous voyez, moi, quand j'ai commencé dans ma structure, moi-même, je ne connaissais pas la différence entre le handisport et le sport adapté.
C'est ça, c'est pour ça qu'on vous a posé cette question, pour ne pas faire d'erreur. D'accord. D'accord, mais justement, est-ce que vous pensez que cette médiatisation nous amène à une citation que j'ai trouvée sur Internet qui disait que 1 Français sur 3 voit le handisport ou les sports adaptés aux personnes handicapées comme une preuve de courage et non comme un réel sport ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation ?
Alors, elle est vraie. Alors oui, c'est du courage, mais ils ont tout autant le dépassement de soi qu'une personne valide, en fait. Pour moi, je ne les mets pas. Alors oui, ils ont une différence. Handicap, oui, l'handicap, on le voit, on le sait. Mais j'ai envie de dire une différence, parce que ce sont des personnes qui vous apportent énormément au quotidien. Sur votre vie personnelle, rien que sur moi-même, moi j'ai beaucoup changé la vision, voilà. Et quand vous les voyez s'entraîner, c'est un dépassement de soi, comme tout athlète de haut niveau, en fait. Donc non, c'est pas du courage, c'est un dépassement de soi qu'ils ont. Et ce qu'ils veulent, c'est obtenir, pour certains, c'est des relais, c'est la médaille d'or, c'est participer au Giro de Paris 2024. Donc on se bat aussi pour que certaines disciplines puissent être intégrées à Paris 2024.
C'est ça, donc au-delà du combat pour l'inclusion, il y a aussi le combat pour faire modifier le regard qu'on porte aux personnes handicapées.
Tout à fait, oui.
C'est ça, très bien. Bah, on arrive à la fin de notre première partie, je vous propose de marquer une première coupure musicale. Avec un retour dans les années 2000, je vous propose d'écouter Grand Corps Malade, Sixième Sens. C'est une musique qui parle de handicap et du regard des autres, justement. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de notre émission.
Merci.
LFM Radio, 95.5.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle, un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel, un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
On en parle.
Sur LFM. 11h33 sur LFM Radio 95.5. Vous êtes toujours sur On en parle, l'émission qui décortique les sujets de société. Aujourd'hui, nous avons abordé la question de l'insertion par le sport des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous avons reçu Marlène Kilissi, directrice et ambassadrice de l'association Hop Swimming, accompagnée du monsieur qui nous a rejoint, monsieur Ayoub Kab, père de Noam, élève de Marlène Kilissi. Donc vous allez toujours bien ?
Très bien, merci. Oui,
très bien.
Très bien, dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer de voir quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour favoriser cette insertion des personnes en situation de handicap. Très bien, ça m'amène à ma première question. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un peu de Hop Swimming, tout simplement?
Alors, c'est le premier club de France de natation artistique, anciennement natation synchronisée. Donc, on est en inclusion.
D'accord, donc c'est le terme sur lequel on est revenu dans la première partie.
Voilà, la première partie. Ça veut dire qu'il y a des groupes compétition et des groupes loisirs. Et à moyen terme, l'objectif que l'on a, c'est de créer l'équipe de France.
Donc de créer l'équipe de France. Donc
sport
de faire
adapté.
Du sport de haut niveau, entre guillemets.
Bien sûr.
Et justement, vous en parliez en première partie. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure, si je puis dire?
Ben, c'est lors de mon voyage au Brésil, quand j'ai vu dans le club de Flamengo ces jeunes filles trisomiques avoir un entraînement. Je me disais, mais c'est hallucinant parce que nous, on râle dès qu'il faut refaire l'entraîneur. Voilà. Et elles en demandent en permanence. Et donc là, l'entraîneur brésilien m'a dit, viens avec moi. Alors je lui ai dit, déjà, on a la barrière de la langue, je ne connais pas tout ça. Et en fait, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a plu, en fait. Et après, j'ai parlé avec un nageur italien qui est aussi un de nos membres fondateurs, c'est Giorgio Montini, qui lui nage, donc qui est champion du monde de natation artistique en duo mixte, et qui nage avec une jeune trisomique chaque année. Et là, j'en ai parlé avec ma meilleure amie, et m'a dit, au lieu de me parler, là, elle m'a dit, bouge-toi le cul, en fait. Parce que ça te touche.
En gros, accélère et lance-toi.
C'était plus que accélère.
D'accord, très bien. Mais justement, au sein de votre association, est-ce que vous recevez que des jeunes en situation de trisomie ou tout
non.
handicap?
Alors, il y a l'autisme et il y a la déficience intellectuelle. Mais après aussi, on a une section pour la partie surpoids obésité, et pour la partie cancer.
D'accord, très bien. Je vais me tourner vers le papa Ayoub Kab. Est-ce que pour vous, c'est important justement que vos enfants soit dans cette situation de mixité avec d'autres enfants qui ne sont pas en situation de handicap?
Bonjour à tous. Pour commencer, je dois dire que c'est important, mais tout dépend de la situation dont on considère l'enfant, du degré de handicap. Moi, ce qui me concerne, mon enfant, dans ma tête, il est comme mes deux autres enfants, il n'est pas handicapé, il est normal. Si je dois le punir, je punis normal. Si je dois, je dois évoluer comme tout le monde. Bien sûr, si les parents considèrent l'enfant qu'il est handicapé et qu'on fait attention à tout, il ne va pas évoluer. Il va rester dans dans son côté handicap. Moi, ce n'est pas mon cas. Mon enfant Noam, lui, je savais qu'il avait peur d'eau, d'aller à l'eau, et il supportait pas du tout l'eau. Et du coup, j'ai décidé de lutter contre ça. Et à partir de l'âge de 6 mois, je l'ai amené à la piscine, Et puis, suite à ça, il a évolué. On a eu la chance de rencontrer Marlène. Et tout à l'heure, je vous attendais qu'il y a souvent le regard. Non, l'enfant lui-même, il n'a pas de regard envers les adultes. Lui, il est normal. Et en parlant de ça, le premier jour où il est parti à la piscine dans le grand bassin, le maître nageur qui était là, il courait vers lui pour l'empêcher de plonger. Mais lui, moi je connaissais mon enfant, il sait très bien nager. Il s'est laissé aller, il a plongé et là le maître nageur, il était surpris. Donc voilà.
C'est ça, donc il faut tout simplement, encore on en revient, changer le regard. C'est le regard externe, c'est pas le regard qu'ils ont sur eux-mêmes qui est le problème.
Oui, exactement, c'est le regard externe.
C'est ça. Et justement, mais parce que en préparant l'émission, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de spécialistes qui disaient que les jeunes en situation de handicap étaient assez repliés, reclus sur eux-mêmes. Est-ce que c'est un avis que vous partagez en tant que parent ?
Je reviens à vous dire encore une fois, tout dépend de l'éducation.
L'éducation, donc.
C'est si vous enfermez les enfants aux autres, normal, l'enfant n'ira jamais envers les autres. Donc moi, ce qui me concerne, mon enfant Noam, quand on descend au terrain de foot, il est toujours avec l'écran plus grand de son âge, en train de jouer, de checker, à faire des choses qui lui correspondent. Voilà, c'est question d'éducation, du comportement des parents aussi, et des donc, adultes.
D'accord, donc toute une pédagogie à mettre en place qui part des parents donc.
Tout à fait.
C'est un avis que vous partagez, Marlène Kilissi ?
Oui, tout à fait. C'est l'éducation, c'est aussi les parents qui cherchent il faut inclure leur enfant envers les autres, il ne faut pas le laisser de côté. Oui, il a une différence, certes, mais il faut aller vers les autres. Il faut l'inclure quand on va dans un parc, il ne faut pas le laisser jouer tout seul, il faut qu'il aille... parce que les enfants ont envie d'aller vers les autres enfants, en fait, tout simplement. C'est l'instinct... C'est l'innocence d'un enfant.
Et comment ça se passe justement au sein de votre association quand vous mettez les enfants ensemble, quand ils sont dans l'eau? Comment ça se passe? Est-ce que l'handicap est encore visible ou il s'estompe?
Non, il n'y a plus d'handicap. Il y a une, comme je dis encore, il y a une famille. C'est vrai ou pas, monsieur?
C'est tout à fait ça. J'ai eu l'occasion d'assister une fois. Comme s'ils étaient dans un centre de loisirs. Ils essayent de faire leur... au maximum pour eux avant tout, et vu qu'ils ont la chance d'avoir Marlène à côté, ils ont envie aussi de faire plaisir à Marlène, bien évidemment.
C'est ça. Donc ils sont totalement dans le bain, si je puis dire.
Ouais.
Tout à fait. Moi, ce que je retiens, c'est beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide entre eux, en fait. Et c'est beau, en fait. Moi, ce que je retiens, c'est... c'est juste magnifique. Parce qu'entre eux, il y a... comme c'est des enfants, c'est des jeunes, parce qu'il y a même des grands, il y a des adultes, il y a des jeunes de 18 ans hein, qui sont là, qui aussi ont leur entraînement, et qui sont là en train de s'entraider, tout simplement. Qui, viens, c'est comme ça et pas comme ça. Et c'est une entraide, et c'est de là où, comme Noam répète sans cesse, ou que ce soit Tamara, Maria et toute l'équipe, c'est on est quoi? On est une famille.
Une famille, donc c'est vraiment le lien social qui est au centre et qui permet justement de dépasser le handicap.
Pour moi, c'est très très important ce lien. Je veux que ce lien, ça soit la base en fait de Hope Swimming.
Donc c'est la base win de l'association.
Oui.
Et quels sont les autres objectifs de Hope Swimming? Vous en parliez tout à l'heure.
À moyen terme, donc c'est de créer l'équipe de France.
Mmh.
Parce que nous sommes affiliés à la Fédération française de sport adapté. Donc, pour pouvoir faire des compétitions internationales, mais bon, déjà, on va commencer au niveau national. Pourquoi pas le lancer sur la ville de Nice, comme M. Estrosi nous accueille, pour tout simplement. Déjà, il faut qu'on crée notre propre règlement, parce que ça n'existe pas. Comme c'est le premier club de France, on n'a rien du tout. Donc, il faut tout lancer, il faut tout faire. Et voilà, moyen terme, c'est l'équipe de France et aller chercher... Moi, j'y vais pas pour rien, par contre. J'y vais pour une médaille.
C'est ça. Très bien, mais justement, quand on voit les chiffres, on voit que 35% des personnes en situation de handicap sont sportives. Comment expliquer qu'il n'y ait toujours pas de structure adaptée pour les aider à poursuivre leur activité sportive?
C'est une bonne question. c'est toujours le retard, en fait. En France, on est encore en retard sur beaucoup de choses. Et c'est compliqué, c'est le retard. Le retard, l'acceptation encore. Parce qu'on va vous dire, oui, on va faire ci, on va faire ça, mais qu'est-ce qu'ils font ?
Parce que justement, on a le gouvernement qui a lancé la loi handicap en 2005, la loi a été révisée en 2018, donc on peut s'attendre à des moyens importants, notamment financiers, qui ont été mis en place. Dans la réalité, c'est le cas ou pas du tout ?
Pas du tout.
Donc vous visez, de, si je puis dire, de quoi, entre guillemets ?
Alors là, il y a des donations par des athlètes de haut niveau, parce qu'on a des parrains et des marraines. On a des demandes de subventions par les villes qui nous soutiennent. Et puis après, il y a les cotisations des adhérents. Mais avec la crise sanitaire, c'est très compliqué depuis le mois de mars 2020.
Et justement, vous faites bien de parler de la crise. Comment ça a impacté Upswimming ?
On n'a pas d'entraînement, tout simplement. Parce que pour l'instant, les jeunes qui ont droit aux entraînements sont ceux qui ont une dérogation pour les sportifs de haut niveau. Et donc, donc pour l'instant, on n'a pas d'entraînement en piscine parce que les piscines, certaines sont fermées, d'autres ferment avec les couvre-feux, les confinements. Donc, c'est très compliqué. Après, on garde quand même un lien social. On s'appelle.
Oui.
Par SMS, on s'appelle, on essaye de se voir par visio, des petits groupes de 6. Donc voilà.
D'accord, donc le lien est quand même maintenu.
Obligatoirement, chez moi, il est maintenu.
Et justement, je me tourne vers le papa Ayoub Kab. Comment Noam vit-il ce manque d'activité au sein de l'association ?
Et c'est qu'il lui manque surtout les amis, la famille qui a pu. Il a pu rencontrer grâce à Marlène, mais Marlène est toujours présent dans la famille. Au jour d'aujourd'hui, on a non seulement c'est l'entraîneur de mon fils, mais elle fait partie de la famille. On le voit en permanence. Et puis voilà. Et il manque, pour moi, ce qui lui manque surtout, c'est la piscine, c'est l'eau, parce que Marlène, elle est toujours présente. Et puis voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un enfant normal qui est normal.
C'est ça.
Voilà.
Un enfant totalement normal. Et quels sont les bons côtés que vous avez pu observer depuis que Noam est justement à Upswimming ?
Bon côté ou mauvais côté ?
Ça, c'est à vous de dire ça.
On ne peut pas parler une journée, ça qu'on appelle Marlène. On dirait qu'il y a plus que coach là. Je vais balancer, on est à la radio, je vais tout balancer et tout. Donc, maintenant, il trouve une excuse pour voir Marlène en disant on va voir mamie, papy. Et qui c'est mamie, papy ? C'est les parents de Marlène, bien sûr. Donc, voilà.
C'est vraiment une famille. C'est
voilà.
Ce que vous
disiez,
mais...
Oui.
C'est exactement ça.
Effectivement, mais sinon, vous sentez tout simplement que votre enfant est plus ouvert, plus épanoui ?
Il est resté lui-même, avec un certain développement qu'il n'avait pas dans l'eau. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est depuis l'âge de 6 mois que je le ramène dans l'eau. Mais moi, je ne suis pas nageur. Moi, je balance, je sais qu'il ne se noie pas. Mais avec Marlène, elle a les techniques de nageur. C'est tout. Voilà. Avant, il flottait. Maintenant, il nage.
Non, il nage, c'est ça. C'est déjà un bon pas. Donc, en gros, c'est un peu Marlène, la fameuse insertrice. Si, je ne sais pas si ça se dit, mais la personne qui permet l'inclusion sociale de vos élèves.
Pourquoi vous dites un P ?
Je ne sais pas, je n'ai pas encore nagé à Upswimming.
Mais on vous invite, venez quand vous voulez.
Justement, on ne va pas. Il faut un moment, vous venez faire un petit reportage sur place. À partir de là, vous allez voir réellement les choses sur le terrain.
Ouais, l'invitation est prise, je passerai avec plaisir. Super.
Par contre, moi, je tiens juste un petit mot à dire. Moi, je trouve que Noam a beaucoup évolué. Voilà.
D'accord.
Depuis le mois de septembre, je trouve que Noam est différent. Il prend position, il s'affirme plus vis-à-vis des autres.
Ah oui. Ah oui, ça c'est créolard, ça. Ça c'est, oh, ça voilà. c'est vrai. Même envers sa soeur et son frère. Et quand ça va pas, il dit ça va pas, je suis pas votre chien. Et il lui dit haut et fort. Et puis.
Avant, il était plus en retrait, ouais. Si vous voulez. Maintenant, c'est Noam, le petit garçon qui a 11 ans et qui s'affirme.
Ouais, voilà. Ce côté-là, oui, j'avais oublié, mais elle a tout à fait raison. Mais...
Je vois que Marlène connaît mieux votre fils que moi.
T'es souvent à la maison que moi, non? Maudit travail que je fais. C'est pas...
Mais donc, c'est ça, grosso modo, c'est que ça permet tout simplement à l'enfant de s'épanouir, d'être qui il est, tout simplement.
Tout à fait. Après, il a des petits repères. Là, par exemple, on le fait travailler sur l'alphabet. Comme je disais, son rêve, c'est de passer son permis, d'avoir sa voiture de luxe.
Ah, la voiture de luxe, c'était pas pour lui. C'est pour moi. Il a dit qu'il allait l'acheter pour moi, une voiture de luxe. De toute façon, mes trois enfants, ils se sont faits. Lui, pareil, le premier qui va acheter une voiture de luxe pour moi.
Mais, et en fait, pour travailler ça, donc on travaille l'alphabet, mais après, on travaille l'alphabet par des repères. Il a des personnes dans son... Parce que ce sont des enfants qui sont très dans l'affect. Et par exemple, Noam affectionne beaucoup, énormément, Alexandre Bamba, le frère du footballeur Jonathan Bamba qui est à Lille, qui, grâce à lui, il est parti voir Lille-Marseille l'année dernière. Et merci à tous les deux. Je leur fais des bisous. Et voilà, il a appris par exemple à écrire Alexandre. Pour nous, c'est des petites choses qui sont toutes bêtes, mais pour eux qui sont importantes. Et qu'on travaille que ce soit dans l'eau ou dans l'extérieur. Par exemple, voilà, il veut savoir comment on écrit les prénoms de ses copines, comment tout ça. Ça devient, et c'est un automatisme parce que même s'il est différent des autres, et même les filles, elles font « Mais pourquoi tu viens pas travailler dans notre école ?» Parce qu'il y a des enfants différents aussi.
Là, vous soulevez une deuxième question, l'handicap dans le domaine scolaire. Ça, on en parlera dans une prochaine émission. Oui. Mais j'ai envie de vous demander, pour terminer, est-ce que vous avez rencontré parfois des situations difficiles avec des jeunes en situation de handicap ?
Alors après, ça dépend. C'est plutôt des parents qui voudraient absolument mettre leur enfant dans l'eau. Mais je peux pas tout faire. En fait, moi je me suis vraiment spécialisée sur le handicap psychique et c'est vrai que j'ai eu un enfant que je m'en rappellerai je crois toute ma vie qui avait un handicap moteur, physique, vraiment la totale mais qui était adorable en fait. Mais je pouvais pas tout lui apporter en fait. Je sais que pour les parents c'est difficile parce qu'on parle de l'enfant, on parle des enfants qui sont dans les centres, dans les écoles, tout ça. Mais il faut surtout penser aux parents, parce que les parents sont aussi démunis face à la situation.
Non, allez-y, je vous en prie.
Des fois, c'est un manque de moyens, des fois, c'est un manque... ils ont besoin d'avoir ne serait-ce qu'une... comment ? Pour une psychomotricité, tout ce qui est kiné, tout ça. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas faire développer leur enfant.
C'est ça, donc il y a un besoin d'accompagnement et surtout d'information des parents.
Oui, oui, il faudrait sensibiliser sur tout ça. Il n'y a pas assez de sensibilisation.
Et encore, on en revient au manque de médiatisation autour du handicap de façon globale.
Tout à fait.
D'accord, très bien. C'est sur cette affirmation, je pense qu'on va marquer la fin de notre deuxième partie. On va passer à la rubrique M'en parle pas. On se retrouve juste après le jingle. Très bien, donc on est dans la partie de M'en parle pas, c'est la partie où on va revenir sur des stéréotypes ou des préjugés que vous ne souhaitez plus entendre autour des jeunes et du handicap. Donc on va commencer par vous, Marlène Kilissi.
Oui.
Y a-t-il un préjugé ou une idée reçue sur le handicap et le sport que vous ne souhaitez plus entendre?
Le mot triso.
Ce qui veut dire?
On dit trisomique. C'est un jeune qui est trisomique 21. Mais triso, je le supporte pas.
D'accord, donc c'est une façon péjorative de qualifier une personne atteinte de trisomie 21, c'est bien ça?
Oui.
D'accord. Et vous, Ayoub Kab, est-ce qu'il y a un préjugé ou une idée pré-reçue sur le handicap des enfants que vous ne souhaitez plus entendre?
Oui, l'handicap, comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste tout simplement considérer l'être vivant que c'est un être humain avant tout, qu'il a la chance de vivre, comme beaucoup d'autres. Et voilà. Et il ou elle a peut-être des difficultés, mais il n'est pas pire que d'autres. Donc voilà, c'est le moins handicapé. Et surtout les parents dont leurs enfants sont porteurs des...
Ils sont touchés par le handicap, oui.
Leurs enfants sont différents par rapport à d'autres et qui pensent que c'est la fin du monde et qui se donnent... Ils rentrent limite dans la dépression au lieu de donner l'amour. Parce que tout d'abord, c'est une chance qu'ils ont d'avoir un enfant. D'autres, ils ont essayé d'avoir des enfants, ils n'arrivent pas. Du coup, voilà, c'est une chance d'avoir un enfant. L'enfant, il n'est pas handicapé. C'est son entourage, l'être humain, l'adulte, les parents qui font en sorte que l'enfant, on peut considérer qu'il est faible, même pas handicapé, d'une certaine faiblesse.
D'accord, très bien. Donc c'est l'amour qui est au centre de tout. Très bien. Et bien sur ce message, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs? Je commence par vous, Marlène.
Alors moi, je voudrais faire plein de gros bisous à mes élèves, leur dire que je suis fière d'eux. Je suis fière de tout ce qu'elles font et tout ce qu'ils font, l'entraide. Et je veux que ça perdure des années entières. Je remercie aussi nos parrains et nos marraines qui soutiennent Hope Swimming, donc Madeleine Malonga, judokate, Eva Colas, ancienne Miss, Trésor Makunda, athlète, et notre membre d'honneur, Alexis Vastin, qui était boxeur, décédé en 2015, et je sais que grâce à lui, on ira loin, parce qu'il nous protège de là-haut.
Très bien. Et vous, Ayoukab?
Oui, moi j'ai un message en particulier aux parents qui ont la chance d'avoir des enfants. Avant tout, c'est l'éducation. L'éducation est un comportement humain envers vos enfants. Voilà. Et j'en profite pour remercier des gens qui nous soutiennent. Hope Swimming, Marlène, et son environnement, et Créolard, Ewa, et puis voilà. Je vous remercie à vous aussi.
Merci à vous d'être venu, merci à vous tous.
Merci
les deux.
Merci beaucoup.
Et c'est sur ces deux belles citations qu'on va mettre la fin à notre émission. Donc pas de panique, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On en parle. En attendant, vous retrouvez aujourd'hui de 12h à 13h la pause actu, votre plein d'informations locales. Et de 16h à 19h, vous avez rendez-vous avec Alice et son live. L'occasion pour vous de découvrir les tops et les hits musicaux du moment. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et bonne journée sur les ondes de l'FM Radio. Ciao, bonne écoute.